Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdivois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et en podcast aussi sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Monsieur Jacques Mourican. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Jacques Mourican, vous êtes vidéaste, documentariste et vous êtes aussi fondateur de Vidéo Val de Drôme et ainsi de cette aussi télévision intitulée TV Val de Drôme. Alors, votre venue ici, c'est pour nous parler de l'actualité, hein, de votre structure, peut-être aussi de parler un peu de sa notoriété grandissante. Et on abordera divers sujets comme le système de diffusion qui paraît important quand même, et puis des sujets qui seraient à réflexion pour de nouveaux reportages, et puis aussi la prise de contact avec les autorités concernant une propagation et puis un certain rayonnement à tous les niveaux de cette télévision. Eh bien, Monsieur Jacques Mourican, quelle est votre actualité à l'heure actuelle au sortir de cette période de Covid ?
J'ai un peu honte de le dire, mais il se trouve que la période du confinement a été pour Vidéo Val de Drôme littéralement une explosion de l'audience de façon toute et absolument évidente parce que les gens étaient chez eux et qu'ils n'avaient pas grand-chose à faire dans un certain nombre de cas. On est passé, si vous voulez, en gros de 266 vidéos vues par jour actuellement à 1600. Donc, il y a eu une progression totalement spectaculaire de l'audience et au fond, c'est très heureux parce que, comme vous le savez, ce que raconte Vidéo Val de Drôme sur le site TV Val de Drôme, c'est notre culture commune, en particulier en histoire et en particulier sur les modes de vie de notre région, disons dans le siècle qui vient de s'écouler. Donc, après tout, que cette période ait au moins servi à ça, bah, finalement, tant mieux.
Dû au confinement, effectivement, la population s'est retrouvée enfermée, en quelque sorte, avec quand même ce moyen de communication qu'est le numérique aujourd'hui. Est-ce que pour vous, comment voyez-vous cet avènement du numérique justement dans le quotidien de la population ?
Bon, il est sûr que dans le domaine dont je peux parler, parce qu'il y a des domaines auxquels je ne comprends rien, mais ça ouvre des canaux qui sont possibles. Je veux simplement faire remarquer que ça ne dispense absolument pas de la qualité. C'est-à-dire que depuis des dizaines d'années, nos compatriotes sont en quelque sorte formés, à force de regarder la télé, sur des produits dont ils peuvent contester le contenu, mais pas la qualité technique. Il faut reconnaître que globalement, ce qui est diffusé sur l'ensemble des chaînes à disposition du public est techniquement bon. Par conséquent, le fait qu'il y ait de multiples canaux nouveaux possibles par l'intermédiaire des plateformes de diffusion n'implique pas, ne doit pas impliquer qu'on puisse faire n'importe quoi, si vous voulez. Je prends un autre exemple. Il est tout à fait vrai que la téléphonie a fait un bond en avant en qualité en ce qui concerne la production d'images. Pour autant, les règles qui sont valables depuis qu'on a inventé le cinéma restent totalement vraies lorsque l'on construit un récit. Les règles qui font que le spectateur peut comprendre comment l'action évolue, tout ça ne change pas. Et ça n'est pas parce que l'on a des matériels nouveaux, ça n'est pas parce que l'on a des canaux nouveaux que cela doit nous dispenser de faire des films de bonne tenue. Et je ne vous cache pas que Vidéo Val de Drôme investit lourdement dans la formation parce que, si vous me permettez l'expression, on veut être bon.
D'ailleurs, lors de votre dernière venue, il y avait ce sujet de ce besoin d'aide au niveau de vidéastes et puis peut-être d'investissement sur du matériel. C'était il y a environ un an et demi, hein, lors de votre dernière visite. Qu'en est-il aujourd'hui donc ?
Écoutez, nous sommes raisonnablement équipés, je dirais, en particulier sur le plan de la caméra du pied et du son, comme le serait une modeste télévision locale. Mais on n'a pas honte de ce que l'on a et au stade où nous en sommes, ça nous suffit. Mais en effet, le problème se situe plutôt dans l'amélioration de nos pratiques, c'est-à-dire la manière de filmer, si vous voulez, et surtout la manière de construire les récits, sachant que, par ailleurs, à mon avis, le problème principal de ce genre de structure, nous et les autres, c'est l'implantation dans le territoire. Le fait qu'on nous remonte des sujets qui sont toujours au croisement d'une part de personnalités, de belles figures qui racontent bien, et d'autre part, de vraies histoires à raconter, c'est-à-dire des moments de vie, c'est-à-dire des évolutions de la manière de se comporter dans notre petite région. Donc, je ne me laisse pas aveugler par la technique, si vous voulez.
Il y a aussi le système de diffusion, hein, de manière à être mieux connu et reconnu. Qu'en est-il aussi de cette utilisation des réseaux numériques par quel type, justement, de système vous passez pour communiquer auprès du public?
Alors, il n'y a pas de doute que nous sommes en effet extrêmement actifs sur les réseaux sociaux et, on va dire les choses très franchement, ça paye. C'est-à-dire que je dis un peu brutalement là, mais que nous ne faisons pas de film pour qu'il reste avec une audience dérisoire. Je n'ai aucune honte à dire que ce que nous souhaitons, c'est que notre travail soit connu. Et par conséquent, je dois observer, là, simplement un peu, c'est un retour d'expérience, si vous voulez, que, par exemple, Facebook, c'est extrêmement efficace, que, par ailleurs, nous observons que les fameux algorithmes qui sont au fond des systèmes d'espionnage du comportement des internautes. Lorsqu'ils nous mettent en avant, comme ça a eu lieu récemment avec le portrait d'un bricoleur crétois, ça a un impact absolument incroyable. Le portrait du bricoleur crétois a été vu 360 000 fois. Donc, c'est extrêmement impressionnant. Ce que je crois qu'il faut dire, c'est que à la fois, il doit y avoir une action sur la qualité de nos documents et les récits que nous construisons pour qu'ils soient intéressants. Ça, c'est un point. Et deuxièmement, il doit y avoir une action. Et franchement, elle est longue chez nous. Elle nous prend du temps tous les jours. Et ce n'est pas un petit stagiaire qui le fait. Hein. C'est moi, personnellement, qui le fais. Pour que nos documents soient connus.
Vous parliez d'algorithmes tout à l'heure. Vous arrivez à les étudier vous-même ou à essayer de trouver un petit peu leur système?
Franchement, pas suffisamment, non. C'est compliqué à comprendre. On commence à deviner qu'il y a certaines règles auxquelles ils sont sensibles et auxquelles ils réagissent. Mais il faut quand même dire de toute façon que les algorithmes, au fond, ils volent toujours au service de la victoire, si vous voulez. C'est leur principe de base. Et pour qu'il y ait victoire, il faut qu'il y ait cette action préalable dont je parlais il y a un instant, notamment sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que lors de la mise en ligne d'une de nos vidéos, s'il y a beaucoup de gens qui envoient des messages de sympathie, les algorithmes adorent ça. Et ils ont tendance à voler au secours de la victoire, à pousser des choses qui marchent déjà. Si un de nos films ne trouve pas rapidement du succès, ils embrayent pas, si je puis dire. Maintenant, il faut aussi dire, nous en sommes maintenant à plus de 5 ans de cette expérience, je dois constater tout simplement que des films très, très anciens, et même pour certains antérieurs à la création de notre système, notre association, continuent d'avoir du public, si vous voulez. Donc ça, c'est quand même extrêmement important, parce que ça veut dire que le public a bien compris que nous sommes une banque de programmes, et qu'après tout, un film qui a 3 ans, c'est un programme comme un autre, et il mérite autant d'être vu.
D'ailleurs, on peut rappeler aux auditeurs le propos qui est tenu et qui est exposé lors de ces vidéos. Quel message laisseriez-vous passer par ces petites vidéos qui concernent en général un individu ?
Nous voulons raconter le temps long dans notre région à travers ceux qui l'ont vécu. Nous voulons nous enfoncer parmi la population. Nous voulons être parmi les gens et en particulier rendre sensible facilement, hein, parce qu'il suffit de faire un clic, c'est pas bien un problème quand même, rendre sensible facilement ce que la vie des gens a pu être dure, compliqué, quelquefois conflictuel, je pense évidemment, lorsque je dis ça, à la résistance. Je pense que l'histoire, c'est toujours le fait d'individus qui sont confrontés quelque part à eux-mêmes parce qu'il y a des choix à faire et que ces choix ne sont pas toujours faciles. Et donc, nous aimons les gens, nous aimons les personnages et nous leur donnons la parole.
Ensuite, il y a la croisée des chemins, hein, comme vous le disiez à un moment, le croisement aussi de diverses télévisions locales dans la Drôme, à commencer par la vôtre. Donc, ensuite, il y a aussi Vercors TV qui se trouve sur le plateau. Il y a la Mistral TV, Dromadaire TV qui est de Valence, je crois, et Royan TV. Donc, 5 télévisions sur le département. Est-ce que pour vous, il y a encore à faire ?
Ah non, mais je crois qu'il ne faut pas prendre le problème sous cet aspect. Il y a des opportunités qui existent de diffuser ce que l'on a envie de dire. S'il y a des personnages, des gens qui ont l'envie de diffuser quelque chose selon leur, comment dirais-je, leur conviction profonde et ce qu'ils aiment aller chercher. Vous savez, nous nous comparons très très souvent, parce que c'est vraiment la chose à laquelle je pense, c'est aux maisons d'édition. Les maisons d'édition, vous en avez, mais une tapée, enfin c'est invraisemblable. Mais toutes ont une personnalité qui est liée en général à la personnalité du fondateur, à ce qu'il aimait faire, etc. Nous nous trouvons, par rapport à l'image vidéo, dans la même situation. S'il y a des personnages assez remarquables, qui ont une pensée assez élaborée pour lancer un canal, techniquement, effectivement, il y a un changement, c'est que ça devient possible de le faire. Donc, la question de savoir, je pense que, enfin, je vais apparaître comme étant un libéral, un ultra-libéral, mais effectivement, je pense que les idées qui ne seront pas très bonnes, elles seront éliminées, si j'ose dire, naturellement. Elles ne trouveront pas leur public, etc. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une ligne éditoriale qui ait une forte personnalité, mais que pour autant, le fait d'avoir une forte personnalité ne signifie pas qu'on mésestime la qualité. On ne peut pas reprocher au public de ne pas aimer quelque chose lorsqu'on n'a pas des documents de bonne tenue.
En parlant de tous ces reportages proposés, ils sont au nombre de combien dans votre catalogue ?
121, qui en gros font chacun autour d'une entre 20 minutes et une demi-heure, hein, approximativement. Et alors, à cela s'ajoutent quelquefois des petites choses que nous mettons sur notre groupe Facebook, le groupe Vidéo Val-de-Drôme, mais qui sont des toutes petites choses. 121 films qui ont en gros une demi-heure de diffusion.
Sur ce nombre de vidéos, est-ce que certaines se démarquent déjà par leur audience, leur taux d'audience ? Et aussi, est-ce qu'il y a une certaine thématique qui est plus intéressante pour le public ?
Alors, la réponse sur le premier point est absolument limpide. Nous avons eu une vidéo représentant un exquis vieux monsieur de 95 ans, bricoleur en diable, qui a été vu 360 000 fois. Bon, très bien. Il y a une vidéo qui est devenue assez célèbre maintenant d'un berger d'Oslon, Jean-Yves Girard, qui a été vu 230 000 fois. Bon, ça, ce sont, si vous me permettez l'expression, ce sont nos vedettes. Maintenant, effectivement, ça nous amène à notre deuxième point. On voit très bien que l'attachement du public est d'abord à des belles personnes, à des gens qui ont à la fois une parole simple et qui ont de l'épaisseur humaine. Nous sommes des traqueurs de l'épaisseur humaine. C'est ça qui nous intéresse fondamentalement. Et on voit bien, ça je dirais que c'est la deuxième chose, c'est que, et c'est une chose qui dépasse complètement l'histoire de Vidéo Val-de-Drôme, mais à mon avis qui concerne l'histoire de toute notre région, c'est qu'il y a une très grande sensibilité à ce que j'appellerais la civilisation villageoise, les modes de vie dans les villages, auxquels un public très important est attaché, avec ce que cela veut dire de sans façon, de manière cordiale de vivre les uns avec les autres, sans qu'on s'aime et qu'on s'embrasse nécessairement sur la bouche, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais il est certain que je pense qu'il caractérise l'époque que nous vivons chez nous, là, dans le Val-de-Drôme. C'est une confrontation entre un monde villageois qui a un très grand support populaire et un monde urbain, je veux dire urbain dans les têtes, c'est-à-dire des modes de vie, de communication qui sont des modes urbains. Et c'est vrai, je crois que ça provoque des frottements.
Justement, par rapport à cette audience, est-ce que vous avez aussi des contacts d'auditeurs ou de visionneurs et qui vous écrivent? Et est-ce que de là, vous établissez aussi une certaine correspondance?
Alors, il est absolument clair que la grande leçon qu'on doit tirer, mettons, de l'année et demie, et même plus que ça, de notre programmation de 121 films, est que le nombre de ces films qui nous ont été amenés par des gens qui sont simplement des spectateurs, mais qui nous disent « Écoutez, il y a Tonton Jules, il est formidable !» Et nous, Tonton Jules, comme par hasard, on ne le connaissait pas. Et donc, on se renseigne. Si vous permettez, je vais vous donner un exemple, parce qu'il a d'hier. J'ai été appelé par une jeune femme crétoise qui me dit « Écoutez, à Étoile, il y a une femme remarquable de 91 ans qui a eu 8 enfants, et dont la vie a été ce que l'on peut imaginer être un portrait de femme dans des conditions de difficulté. Elle tenait un magasin de fruits et légumes. Ça, pour nous, ça c'est vraiment, mais c'est de la crème chantilly sur le gâteau, parce que c'est effectivement une vie qui raconte, vous vous rendez compte, mais on le diffuserait à Lille, à Bordeaux ou à Marseille, ça serait pareil. Il y a des millions de femmes qui ont vécu comme ça. Pouvoir l'ancrer dans notre terroir à nous, c'est formidable.
Justement, ce sont des sujets qui seraient dans l'air, hein, comme vous le dites. Et parmi celles, si, il y a une proposition qui est 50-70, les 20 glorieuses de la Drôme. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous voulez signifier par ce terme des 20 glorieuses de la Drôme?
Il se trouve que depuis, qu'est-ce que je pourrais dire? Allez, on va dire un an environ, nous avons une collaboration très sympa avec Mémoire de la Drôme, dont vous savez que le fonds photographique est proprement inouï, puisque je crois qu'ils ont 130 000 clichés en fonds photographiques, et que, en collaborant avec eux, puisque nous, on sait surtout faire de la vidéo, nous avons sauvegardé un certain nombre de films qui leur avaient été remis, mais ils sont plus à l'aise techniquement sur la photo, ils n'étaient pas très à l'aise sur la vidéo, donc nous nous sommes occupés de rendre ces vidéos d'une part un peu meilleures techniquement, parce que souvent c'était des films amateurs, familiaux, etc., et qui n'étaient pas très bons, il faut bien le dire, au départ, et puis permettre qu'elles soient susceptibles d'être justement diffusées, comme nous, si vous voulez. Et alors, il se trouve que le journaliste Claude Didier, qui habite Chastel-Arnaud, a écrit un certain nombre de livres largement utilisant le fond photo de Mémoire de la Drôme, ce qui permet de couvrir des périodes assez intéressantes. Et donc, c'est tout à fait intéressant pour nous d'avoir à la fois les images, y compris les images filmées, si vous voulez, recouvrant une période, et puis de pouvoir, une fois de plus, comme je le disais tout à l'heure, retracer le temps long, si vous voulez. Tout n'a pas commencé hier. C'est tout à fait intéressant de pouvoir voir des évolutions longues.
À vous entendre, j'aurais l'impression qu'il y aurait une espèce de création d'un pôle de mémoire de la Drôme via la vidéo, par exemple.
Écoutez, je ne suis pas assez prétentieux pour dire ce que vous êtes en train de dire. J'ai beaucoup de défauts, mais celui-là pas.
Non, mais c'est pas de l'ambition ou de la prétention. C'est juste, est-ce qu'il y aurait peut-être aussi une nécessité de manière à peut-être encore mieux préserver ou,
Alors, je vais vous dire, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la mémoire a un immense soutien populaire, spontané, naturel, etc. Nous le voyons, mais 100 fois, 1000 fois, par des messages qui nous sont adressés. Alors, beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est pas bien fatigant. Mais on voit bien, vous comprenez bien que nous sortons beaucoup, puisqu'il faut filmer quand même, on peut pas toujours rester chez soi. Et on voit bien dans les discussions que nous avons avec les gens, il y a un immense attrait du public pour cette question des modes de vie qui ont été des générations passées. Mais une fois de plus, je redis que cela porte très particulièrement sur le monde villageois dont je pense qu'il a le sentiment d'être menacé de disparition. Et moi, je suggérerais beaucoup qu'on soit extrêmement attentif à cela. Je suis à peu près convaincu que dans 20 ans ou 30 ans, lorsque je serai mort, des sociologues doctes iront sur les plateaux de télé pour dire « c'est incroyable, à l'époque, on n'a même pas eu la conscience de ce que l'on était en train de vivre, etc. etc. » Effectivement, je pense qu'il est indispensable, notamment pour les populations qui arrivent ici, qu'elles, comment dirais-je, elles entrent dans la population et notamment son histoire. On n'entre pas dans une population sans histoire, sans connaître son histoire, sans connaître comment, quels ont été les modes de vie. Moi, ce qui me frappe lorsque je regarde l'ensemble de nos films, par exemple, dans la partie concernant le monde paysan, c'est que le monde paysan a été affreusement malheureux. Je veux dire, il a vécu dans la misère, au point de vue... Il ne faut pas se raconter des histoires. Il ne faut pas nous transposer des discours sur l'agriculture productiviste lorsque on est ici, dans le Diois. Donc, si vous voulez, je dirais que, pour répondre à votre question, il existe à l'état naturel, sous-jacent, si vous voulez, une immense curiosité, un immense attachement à tout ce qui est la mémoire populaire collective.
Alors cette mémoire, c'est aussi une manière de la préserver, hein, ce que vous, par vos actions, et puis c'est cette proposition donc de vidéo Val de Drôme. Mais qu'en est-il de son application dans le quotidien de cette mémoire?
Alors, écoutez, il arrive que des associations nous demandent de leur donner des films pour qu'elles-mêmes puissent créer des animations autour. Et je dois dire que nous sommes alors là d'un libéralisme total. Nous le faisons très volontiers. J'ajoute que, bon, on sort de cette période du Covid qui est très pénible, etc. Mais incontestablement, une de nos priorités sera d'organiser des projections publiques. Et lorsqu'il m'est arrivé d'écrire sur un réseau social que nous pensions à ça, mais immédiatement, il y a eu des réactions de gens qui disaient « Mais oui, faites ça, faut y aller, etc. etc. » Parce que vous ajoutez à une dimension un peu culturelle, on prend connaissance d'informations, d'un moment de l'histoire, vous ajoutez, ne nous le cachons pas, un coup de clairette, un bout de saucisson, etc. Donc c'est de la convivialité plus de la culture. Nous, il faut vraiment qu'une fois que tout ce que nous vivons sera terminé, que nous puissions relancer ça.
J'en viens aussi aux relations extérieures. Et donc, par exemple, Mémoire de la Drôme, est-ce que vous pouvez nous présenter cette organisation?
Mémoire de la Drôme est un truc formidable qui, je crois, a 30 ans ou quelque chose de ce genre, et qui a donc fait un travail considérable qui consistait à envoyer, enfin, en s'appuyant là encore, un peu comme nous, sur des gens implantés dans les villages, ils allaient avec un scanner et puis ils numérisaient des photos intéressantes qui étaient prêtées par le public. Ensuite, ceci fait l'objet d'un travail d'indexation absolument remarquable. J'incite le public à aller voir le site internet de l'association où on peut faire des recherches. Et c'est le travail qui a été fait là est un travail tout à fait intéressant. Il a donné lieu à un ensemble de publications. On a cité Claude Didier il y a un moment. Il y a d'autres auteurs qui mettent à la disposition du public des moments d'histoire, alors sur support papier. C'est la raison pour laquelle nous, on a vocation... Très naturellement, on utilise une autre méthode, mais on fait la même chose. On a la vocation à travailler ensemble.
Donc, relations extérieures, mémoire de la Drôme. Et puis, bon, il y a aussi ces périodiques, ou plutôt quotidiens, le Dauphiné, le Crétois, et puis aussi Radio France.
Oui, alors bon, il se trouve que j'ai été pendant 20 ans journaliste de radio, mais à la radio suisse. Nos collègues de Radio France ont appris lorsque j'ai pris ma retraite à Beaufort-sur-Gervanne et ils m'ont sollicité, voyant ce que nous faisions à Vidéo Val-de-Drôme et sur TV Val-de-Drôme, ils nous ont sollicité pour que nous tenions des chroniques historiques régulières. Voilà, je dois dire que je vous rends volontiers hommage, vous faites partie de ceux, avec eux, avec le Crétois, avec le journal du Diois, qui suivent de près ce qu'on fait, en sorte qu'il y a un petit écho médiatique.
Je voudrais revenir ensuite sur les propositions des futurs documentaires. Donc, vous citez La Bâtie des Fonds, un village de 3 habitants.
Non, mais attendez, La Bâtie des Fonds, c'est juste dément. Je vais vous raconter l'histoire, elle est trop belle. Un jour, je regarde, franchement, ça a lieu tous les jours, l'état de notre compte en banque et je vois une subvention de 50 euros de La Bâtie des Fonds. Alors d'abord, je fonce sur Internet franchement, je ne savais pas très bien où c'était. Hein. Bon, et puis je vois 3 habitants. Je me dis, attends, je rêve, ça veut dire que nous avons eu 16 euros de subvention par habitant. Imaginez que la ville de Die nous ait donné une subvention, ça aurait fait du pétard. Hein. Et alors, évidemment, est-il besoin de vous dire que nous avons remercié chaleureusement Madame le maire et que, bien sûr, parce que c'est... Alors, j'ai découvert depuis qu'en surplus La Bâtie des Fonds, qui est, vous savez, à la limite absolue entre le département de la Drôme et le département des Hautes-Alpes, que La Bâtie des Fonds était un des lieux de naissance de la Drôme en tant que fleuve, si vous voulez, enfin que rivière, pardon. Et j'ai eu Madame le maire au téléphone qui m'a dit, Monsieur Mauricain, vos films, je les connais pratiquement tous, j'en ai vu une cinquantaine. Je pense que ça doit être un de nos auditeurs les plus fréquents.
Tout à l'heure, on parlait d'histoire et de mémoire. Et on revient aussi sur des sujets que vous allez traiter, donc les républicains espagnols lors de l'avènement du franquisme et aussi les Allemands qui se sont installés à l'après-guerre sur les territoires.
Ça, c'est une chose qui est assez peu connue. Dans l'immédiate après-guerre, il y a eu, il faut bien le dire, fortement encouragé par des organisations qui avaient une coloration religieuse protestante. Il faut se rappeler que si nous sommes dans un certain nombre de villages en ruine, l'Allemagne l'est tout autant. Et il y a des gens qui ont une peine à vivre qui est terrible. Et il se trouve aujourd'hui encore... Dans notre région, je crois qu'on peut citer par exemple la région de la Chaudière, des familles. Alors évidemment, maintenant, on est à la deuxième génération, si vous voulez. Mais enfin, imaginez, on est en 48, 49, 50, etc., avec la mémoire immédiate de ce qui vient de se passer, de la résistance, si ça se trouve, un frère, une sœur, que sais-je, qui a été tué. Et ces gens vont s'implanter là. Et pour un certain nombre d'entre eux, devenir actifs dans la société locale. À ma connaissance, puisque cet entretien est enregistré à Die, que je sache, à Pont-de-Car, Il y a eu une famille allemande ou des familles allemandes. Alors souvent accueillis particulièrement par des groupes protestants, je crois. Il me semble qu'il y a eu des mennonites. Mais peu importe. Ce qui est formidable, c'est qu'on se dit, mais attends, ces gens... Dans l'ambiance de l'époque, ça a dû être absolument terrible. Et donc, nous avons très envie de le faire. Au passage, vous avez fait une allusion aux républicains espagnols. Je voudrais dire que je crains fort que la population d'aujourd'hui, de notre petite région, sous-estime totalement le nombre d'Espagnols, de républicains espagnols qui ont été... qui sont venus ici, l'accueil. Rendez-vous compte que je connais un chiffre qui est très éloquent. Espenel, dont nous allons raconter très prochainement la destruction, Espenel avait à ce moment-là à peu près 130 habitants. Espenel a accueilli en plus 30 réfugiés espagnols. Vous imaginez, attendez, c'est énorme par rapport à la population.
À propos de ces républicains espagnols, vous dites qu'il y a peut-être encore un manque d'informations vis-à-vis de la population. Mais justement, comment opérez-vous cette amorce d'un futur reportage? Comment vous le préparez?
Alors bon, il ne faut pas cacher que c'est un sujet que je connais assez bien. Parce que nous avons eu à déplorer il y a peu d'années le décès de Mario Escofet, qui se trouvait à Saillant, et la famille Escofet existe toujours. Et Mario Escofet, que j'avais rencontré, m'avait raconté son arrivée ici. Et d'ailleurs, ça restait pour lui une grande émotion, l'excellent accueil que sa famille avait trouvé. Par ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Résistance, vous savez sans doute qu'il existe une cave privée qui s'appelle la cave Carod. Eh bien, les Carod sont des descendants des républicains espagnols et dont certains éléments ont été extrêmement courageux dans la résistance, se battant comme des lions. Il faut rappeler que, si j'ose dire, ils avaient appris les techniques militaires et les techniques de guerre en Espagne et donc ils ont joué un rôle important.
Alors, il y a aussi l'avenir. Hein. Vous parlerez de sujets qui concernent les jeunes paysans et puis les chemins de fer de la Drôme. Dans quel état est-il et sont-ils plutôt? Et la forêt de Saou. Alors, pourquoi ces sujets? La forêt de Saou. Quel est son avenir d'après vous?
Alors, si vous voulez, c'est un peu toujours la même chose pour nous. C'est-à-dire que Nous sommes à la recherche, et si jamais il y a quelqu'un qui m'écoute et qui a des idées, je les prends volontiers, de l'âme d'un lieu. Vis-à-vis de la forêt de Saou, nous voudrions trouver des gens qui l'ont très intimement connu, qui ont connu... Parce qu'il faut rappeler que dans la forêt de Saou, même si ce n'est pas beaucoup, mais il y a eu... des populations qui vivaient là-dedans. Il y avait des fermiers dans la forêt, il y avait des fermes dans la forêt, on a oublié ça. Hein. Et moi, j'aimerais bien qu'on trouve le moyen de rendre... Bon, la forêt, tout le monde connaît, mais malheureusement, elle est réduite aujourd'hui à, si j'ose dire, sa fonction de lieu de promenade. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, le lieu de promenade, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait eu des gens... Alors, il y a une histoire qui est très célèbre, qui est formidable, que j'ai racontée dans d'autres circonstances. Il y a eu des Russes blancs qui sont arrivés dans la forêt de Saou juste après la révolution bolchevique autour de l'année 1920. Et vous savez qu'à ce moment-là, la forêt de Saou était la propriété d'un dénommé Maurice Burrus qui avait fait fortune dans le commerce du tabac. Et Maurice Burrus les a fort bien accueillis et leur a trouvé du travail à tous. Notamment, c'est grâce à eux, on ne s'en rend pas compte lorsqu'on est un marcheur, mais que les sentiers qui existent aujourd'hui et qui notamment permettent d'accéder aux Trois Becs, ce sont des travailleurs russes et ukrainiens qui les ont faits. Alors moi, c'est ça que j'ai envie de raconter. J'ai envie de montrer qu'il y a eu des hommes là-dedans, si vous voulez. C'est vrai qu'il y a aussi, on pourrait faire un sujet nature. Pourquoi pas? Mais, et d'ailleurs, je pense que les images vont être nécessairement des images de nature. Mais ce qu'il faut, c'est trouver l'âme du lieu.
Jacques Mourican, qui êtes-vous lorsque vous filmez une personnalité ?
D'abord, je vais dynamiter le mot personnalité parce que si vous avez vu nos films, vous aurez remarqué que nous ne faisons pas la chasse aux célébrités.
Personnages, alors.
Aux personnages, oui, voilà. Deuxièmement, je crois, et ça c'est quand même l'avantage des techniques d'aujourd'hui, c'est qu'il faut rendre l'acte de filmer possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la personne qui est en face de vous soit tétanisée parce qu'il y a une caméra. Ce qui est absolument humain, hein, je veux dire, moi je comprends très très bien ça. Donc, je pense qu'il y a un soin très particulier à mettre pour créer le climat de confiance qui fait qu'on va oublier la caméra. Et c'est vrai que mine de rien, le fait que les caméras soient de plus en plus petites n'est pas tout à fait neutre. Mais malgré tout, ça reste quand même un matériel assez imposant. Créer le climat de confiance est quelque chose d'essentiel. Et là, le fait que nous soyons implantés depuis des années, que nous-mêmes nous soyons porteurs d'histoire, parce qu'à force, on a entendu tellement qu'on finit par en raconter nous-mêmes, si vous voulez. Ça met du liant. Et moi, on revient encore une fois, voyez-vous, à cette question d'être dans la population, parmi les gens. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que hier, je tournais, par exemple, à Barsac. Il y a un type qui est arrivé que je ne connaissais absolument pas, qui me dit « Oui, mais vous êtes celui qui a fait le film sur Gigi, d'ailleurs, le berger, etc. » Ça veut dire que, voilà, on commence à être connu.
Il y a aussi, vous l'aviez annoncé un petit peu, ce sont les projections publiques. C'est un souhait pour vous aussi de communiquer à l'aide de ces projections, de communier même avec une assistance devant ces projections.
Alors, écoutez, c'est très clair. D'abord, je vais vous raconter une histoire parce qu'elle est trop drôle, ça m'a fait plaisir. Un jour, nous faisons un film à Barsac, avec un monsieur qui est absolument exquis, qui s'appelle Gérard Meunier, et qui nous raconte l'arrivée à Barsac du premier tracteur. Ben. Et puis, le temps passe, et nous sommes sollicités par une association de Blacon qui, justement, ça l'arrangeait pour son programme de pouvoir faire une projection publique. Donc, on fait la projection publique. Alors, la lumière s'éteint, le film commence à passer, les gens sont extrêmement sages, on n'entend rien, etc. Et puis, soudain, sur l'écran, apparaît le tracteur en question, une photo du tracteur en question, etc. Et là, dans la salle, c'est « Mais oui, tonton Jules avait le même... » Tu te souviens, le dépositaire, le concessionnaire, c'était machin. « Ah oui, non, mais attends, c'était pas très bon quand même, il y a un problème avec le carburateur. » On a eu... Bon, voilà. Eh bien, les projections publiques, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la vie autour de films. C'est la rencontre qui devient possible. Entre nous, pour nous, c'est extrêmement égoïste. Parce que, invariablement, lorsqu'après on prend un verre de clairette, il y a quelqu'un qui vient nous voir, qui nous dit « Mais écoutez, est-ce que vous avez pensé à aller faire ça ?» Et dans 9 cas sur 10, on n'y a pas pensé. Et du coup, il y a des gens qui nous disent « Attendez, bon, alors je m'en occupe, je vais vous trouver la personne qui pourrait correspondre. » Et ça, c'est absolument formidable. Et puis, excusez-moi si je parais un peu obsessionnel, une fois de plus, c'est l'ancrage dans la population locale.
Justement, je reviens un petit peu sur ce propos en début d'émission où vous parliez de personnes qui vous écrivaient pour signaler un certain personnage. Est-ce que vous arrivez aussi à déceler cette motivation de cette personne ? Pourquoi elle veut absolument maintenir une sorte de mémoire ?
Alors, il y a ça. Et puis, si vous voulez, il y a un autre aspect de la question. Qu'on le veuille ou non, l'image qui est sur un écran, dans la perception que le public en a, c'est que, si vous me permettez l'expression, si on voit un monsieur qui parle à la télé ou sur un écran, c'est que c'est quelqu'un de connu. Et il y a, je crois, la volonté d'un certain nombre de gens à donner de la notoriété, je ne vais pas dire de la célébrité, on ne va pas aller trop loin, mais de la notoriété, à des gens qui en ont toujours été privés, qui ne sont jamais passés à la télé, que l'on ne connaît pas et dont une fraction du public pense que c'est injuste. Et j'ajoute, moi aussi. Et donc, si vous voulez, si l'action de Vidéo Val-de-Drôme aboutit à ce que, en effet, nous donnions un peu de notoriété à des gens qui en étaient totalement privés, alors là, on a réussi.
Et puis, il y a aussi une question, c'est ce qui concerne les conférences Zoom. Vous y attachez quel regard dessus ?
Alors là, vous pensez plutôt à notre vie intérieure, la vie de l'association. Il est vrai que dans les malheurs que l'on vient de vivre, là, dans la période de 18 mois à peu près, où on ne pouvait pas faire grand-chose, il y a eu des aspects positifs, il faut reconnaître. C'est-à-dire que, en effet, nous avons utilisé une fois ou l'autre le système Zoom. Il y a quand même le gros avantage de permettre une participation meilleure des administrateurs de l'association. Et moi, je ne suis pas un fan de ça. Hein. Je veux vous dire, je suis très convivial. Moi, j'adore boire des coups avec les gens. Donc, je préfère de loin la rencontre physique. Mais ceci dit, ça a un gros avantage. C'est que nous avons des gens qui font partie de l'association et qui participent à nos délibérations, qui se trouvent être éloignés, éventuellement parisiens, par exemple. Bon, eh ben, même nous avons eu quelqu'un qui, nous avions une réunion, il était pourtant pas loin, il était à Barsac. Mais bon, il pouvait pas se déplacer parce qu'il y avait un problème avec un artisan, je sais pas quoi. Bon, mais c'est quand même rudement commode, si vous voulez. Là, il faut pas se plaindre parce que nous sommes très attentifs à ce que la vie intérieure, interne de l'association, si vous voulez, soit quand même suffisamment vivante.
Pour terminer, l'aspect matériel aussi de Vidéo Val-de-Drôme, par quels moyens existe-t-elle plutôt et quels sont ses soutiens aussi ?
Alors, fondamentalement, ce sont des dons du public. Alors, ces dons du public sont, si j'ose dire, organisés puisque ça passe par des financements participatifs. Mais enfin, il faut savoir, on va être très clair, ça représente 65% et peut-être cette année, ça sera encore plus, de nos frais de fonctionnement. Le restant en ce qui concerne les frais de fonctionnement venant de subventions communales qui peuvent être la bâtie des fonds, très bon exemple, mais Luc Andiwois tout autant, ce qui est très intéressant, moi je regarde beaucoup là Poney Saint-Auban, ce qui est très Barnave, ce qui est très intéressant, c'est que on voit bien la générosité des toutes petites localités qui nous reconnaissent au fond comme quelque part des porte-parole de cette civilisation qu'ils considèrent comme menacée. Et puis alors, effectivement, il faut quand même dire un mot en investissement du soutien que nous avons eu du programme européen Leader, qui, alors lui, nous a financé d'une part une caméra qui est assez onéreuse quand même, mine de rien, avec ce qui va autour, micro, machin. Et puis surtout, ce dont j'ai parlé à différents moments de cet entretien, c'est la formation, en l'occurrence à Avignon. Et je dois vous dire que je pense que nos films ont été transformés par l'effort de formation. Et je dois dire, je le dis très volontiers, la qualité de la formation qui nous a été dispensée.
Là, vous avez aussi des contacts avec certaines autorités. Alors, justement, en parlant de patrimoine, vous avez aussi ce contact avec ce conservateur du patrimoine de la Drôme.
Alors, pour le moment, non. Mais enfin, nous avons été assez touchés de voir qu'en effet, il y a eu une manifestation d'intérêt. C'est-à-dire que nous n'avions pas vraiment fait la démarche. Elle a été faite à notre égard. C'est extrêmement sympathique. Et effectivement, si on a un reproche à s'adresser, je pense que c'est à ça que vous faites allusion, c'est que, bon, comme il se trouve qu'on fait un film toutes les trois semaines, on est très pris et que relations extérieures, rencontres avec des administrations, notamment par exemple la conservation du patrimoine, est tout à fait insuffisant. Et il faut que nous le fassions davantage dans la période qui vient. Mais enfin, tout le monde comprend évidemment que la période de Covid a été complètement à geler la possibilité d'avoir des rencontres de ce type.
Il y a donc des personnages dans les sujets de vos reportages. Est-ce que vous envisageriez aussi d'autres aspects du quotidien? Ça peut être un village, comme la Bâtie des Fonds, on peut parler de ça par exemple. Ça va d'avoir un champ plus large aussi, ou plus élargi sur certains secteurs.
Alors, moi, je me méfie de la carte postale, si vous voulez. C'est-à-dire, je pense qu'un lieu devient intéressant lorsqu'on place en son centre des vies et donc des personnages. Et donc oui, en effet, nous sommes très attentifs à trouver des gens qui, quelque part, soient l'écho du lieu où ils vivent. Simplement, je fais remarquer que c'est l'évidence même que lorsque vous filmez des lieux. C'est-à-dire que les images sont porteuses d'une représentation de ce lieu. Mais si vous voulez, par exemple, de temps à autre, ça nous met mal à l'aise. Vous m'avez posé la question tout à l'heure relativement à la forêt de Soues. Bon. Oui, pour le moment, on ne sait pas bien quoi faire parce que on n'a pas encore trouvé le personnage qui serait l'âme du lieu. Il faudra quand. On le trouve. Un autre aspect, nos amis nous a suggéré de faire quelque chose sur l'importance du protestantisme dans la région, ce qui est une évidence. Mais simplement, il faut qu'on trouve le ou les personnages qui porteront témoignage d'aspects différents de cette importance. Et ça, c'est pas facile. Et donc, je vous dis, nous, on fait de la traque aux personnages.
On termine cette émission, donc, et peut-être pour découvrir votre production et proposition de documentaire, nous vous invitons aux auditeurs donc à venir sur quel site internet ?
tvvaldedrome.com. Et là, il y a 121 films qui sont accessibles. Et en plus, il y a l'intégrale de notre programmation. Donc, on peut passer, savoir exactement ce que nous avons fait, la durée du film, etc., la date de diffusion, etc. Donc, voilà, tvvaldedrome.com.
Peut-être une prochaine Assemblée Générale ?
Oui, elle est fin mai.
C'est tout proche. Donc.
C'est tout proche.
Voilà, et bien toutes ces informations sont donc sur ce site aussi, oui, y compris alors, l'Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale, vous avez raison de me relancer là-dessus parce que j'avais oublié quelque chose d'important. Il existe un groupe Facebook qui s'appelle Vidéo Val-de-Drôme, qui est extrêmement actif parce que, au fond, les gens commentent. Les films et souvent font des remarques fort pertinentes à propos des films. Donc, par exemple, en ce qui concerne le compte-rendu de l'Assemblée Générale, il se trouvera sur notre groupe Facebook.
Jacques Mourican, je vous remercie votre temps consacré à R du Bois pour parler donc de Vidéo Val-de-Drôme et de TV Val-de-Drôme. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée à vous.
Au revoir.
Au revoir.